cinquième dimension. Une pièce radiophonique d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté par Pierre Bassoli et présenté par le Théâtre de l'Oreille. Première partie, le garçon à la flûte d'or, avec, par ordre d'apparition, Gilbert Rigotti, Raoul Hiersin, Marco Poli, Philippe Lecher, Eric Ashton-Lomax, Simone Emery, Cédric Schneeberger, Vivian Augsburger, Pierre Bassoli. Mise en onde, Marco Poli et Pierre Bassoli. Effets spéciaux et montage, Pierre Bassoli.
Mais où est donc ce maudit garde-chasse? Il devrait être revenu. Ah, vous voilà, Pierre. Enfin, où étiez-vous passé? Êtes-vous certain de votre direction?
Pour sûr, M. Jensen, vu que j'ai pris l'arbre mort du chênaie comme repère. J'ai ramassé les colverts. Regardez. 6. Sont bons, hein?
Oui, et dur à tirer que c'en était un plaisir.
Ah, dommage que l'Oscar n'ait pas retrouvé le dernier. Ça fait rien, je retrouverai demain. Y a pas les tombés dans les bruyères. Mais sacré vendio, je suis plus le fils au nain d'être grand maison si je te retrouve pas. Tu te rends compte, hein, mon salaud? Tu m'aurais retrouvé, mon dernier, que j'aurais eu l'air moins bête.
Pierre! Mais il est où, cet arbre mort?
Ne craignez rien, monsieur Barre. Je retrouve toujours la piste.
Vous avez vu, Pierre? On dirait qu'il y a de la lumière au manoir de la Ravachère.
Ça m'étonnerait, monsieur. Il y a des années qu'il n'y a plus d'hommes qui vivent à la Ravachère.
Vous devez avoir raison. Pourtant, j'aurais juré avoir aperçu de la lumière.
Oh, vous ne pourriez pas avoir cette discussion en voiture? Il commence à neiger.
Voilà la voiture. Je vais descendre, monsieur. Je vais placer quelques branches sous les roues.
Stop! Je vais braquer et essayer de prendre appui sur les bruyères, à droite. Eh bien, Pierre, il ne vous reste plus qu'à rentrer à Chérupeau par la lande et à venir nous rechercher en jeep. Armand, quelle heure est-il?
6h30.
Mon vieux Pierre, il vous faudra en gros 1h30 pour rentrer et 1/2 pour être de retour.
C'est peut-être pas la peine que je geste les chiens. C'était une dure journée et ils sont trempés.
Emmenez-les et rassurez madame.
Et dites-lui de nous préparer du vin chaud.
À tout à l'heure.
Au fond, on n'est pas si mal.
Sans vouloir vous vexer, Sven, je me verrais fort bien devant votre cheminée en train de siroter un pot.
En parlant de cheminée, si ça ne vous fait rien, je vais aérer un peu toute cette fumée. Sven, vous aviez raison, il y a de la lumière.
Où?
Au manoir de la Ravachière.
Le manoir de la Ravachière ou le manoir de la solitude? Joli titre pour un roman.
Vous avez remarqué la tête de votre garde quand vous lui avez parlé du manoir?
Oui. Ce n'est pas la première fois que j'enregistre une telle réaction. Un jour, nous chassions et j'ai vu nos valeureux rabatteurs faire peureusement un crochet pour éviter le manoir. Cela dit, comme je ne viens ici qu'une fois l'an, il est possible qu'un amateur ait racheté le manoir et l'ait restauré. Allez, on y va.
Où donc?
Mais au manoir. Je laisse un mot pour Pierre.
Pourquoi pas, après tout. Attendre pour attendre, autant que ce soit au chaud.
Vous avez raison, Frédéric. Il est à peine 19h.
Messieurs, soyez les bienvenus à la Ravachière.
J'ai déjà vu ce visage quelque part. Je vous demande de bien vouloir excuser notre intrusion, monsieur, mais nous avons tiré des cols verts tout le jour et notre véhicule a versé dans le fossé. Je me réjouis d'avoir un voisin, bien que 10 kilomètres nous séparent de Chérupo.
Ce n'est rien à notre époque, monsieur Jensen.
Mais où ai-je vu cet homme? Il me connaît, donc je suis censé le connaître. C'est sans doute pour cette raison qu'il a jugé inutile de me dire son nom. C'est trop bête à la fin.
Faites-vous sécher au coin du feu, messieurs. Puis-je vous proposer une fine champagne?
Très volontiers.
Oui, ça nous réchauffera.
Mais où ai-je donc vu ce visage?
Je regardais cette statue de joueur de flûte. Elle est magnifique.
Il est beau, n'est-ce pas?
D'où tenez-vous cette statue, monsieur?
Elle a toujours été là. On me l'a certifiée d'époque romaine et les experts pensent qu'elle devait appartenir au temple d'Auguste et de Livie. Si vous passez par Vienne, dans l'Isère, vous pourrez en voir de semblables, bien que différentes de physionomie. Comment est-elle venue à la Ravachière? Nul ne l'a jamais su. Un matin, en creusant des fondations, les maçons l'ont mise à jour.
Vous n'avez pas cherché à connaître la vérité?
Il me suffit de savoir qu'elle a été sculptée 27 ans avant la naissance du Christ. On se sent brusquement tout petit devant l'Antiquité, n'est-ce pas? Admirez ce visage. Examinez le regard de cet enfant. On le dirait vivant. Il y a des soirs où je m'attends à le voir parler.
Si je vous disais que moi, j'entends sa voix, me croiriez-vous? Laissez-moi poursuivre, car ce qui est extraordinaire, c'est que vous, monsieur, ayez cette même impression.
Enfin, Frédéric.
Sven, vous allez comprendre. Vous allez tous comprendre. Notez seulement que cette statue provient du temple d'Auguste et de Livie, dont les vestiges sont à Vienne. Vienne, 30 kilomètres de Lyon.
Oui, bon, c'est bien que ça vienne.
Attendez avant de sourire. C'est à Lyon que j'ai fait mes études et là, j'ai eu pour camarade de classe un adorable garnement recueilli par des gens un peu frustes qui lui prodiguaient davantage de baffes que de caresses. Êtes-vous capable de retrouver un moment vos âmes d'enfant? Parfait. Nous avons tous désormais des culottes courtes. Il y a du soleil, nous sommes à Vienne, au théâtre antique.
D'accord, mais pourquoi?
Écoute-moi bien, Armand. La statue du temple d'Auguste ressemble à l'enfant que j'ai connu.
Tu ne crois pas que cela va ennuyer notre hôte?
Pas le moins du monde.
Ça commence comme un conte de fées.
Je vous ai dit de ne toucher à rien. L'aubure, tu seras puni.
C'est pas moi, madame, c'est Albert.
Albert, viens ici. Allez, viens.
J'ai rien fait, madame.
Hé, vous autres, vous avez bien vu que c'était lui qui a renversé l'amphore.
Albert, as-tu renversé l'amphore?
Non, madame.
Si, même que je l'ai vu, et Popolo aussi, puis Arthur, pour vrai.
Je dis alors à la maîtresse... Ne l'écoutez pas, madame. Albert était avec moi. Si quelqu'un a renversé l'amphore, c'est pas lui.
Ça suffit. On verra ça demain.
Les élèves se remirent en rang et on continua la visite. Peu à peu, Albert se laissait distancer. Nous nous éloignions et il n'avait nulle envie de nous rattraper. Lorsque toute la classe eut quitté la salle des poteries, il ne fit rien pour nous rejoindre. Alors, il chercha refuge derrière un pan de mur et découvrit une niche aménagée dans un renfoncement, susceptible de le dissimuler. Une statue de Diane sur son socle l'attirait. Il voyait ce visage aux traits purs, à l'ovale parfait, et lui semblait lire dans son regard intérieur une merveilleuse tendresse. Il ne pouvait la quitter des yeux. Il se sentait brusquement en sécurité près d'elle, et parce qu'il savait qu'elle ne pourrait lui répondre, il éprouva le besoin de se confier.
« Ça vous ennuie pas que je sois restée, dites? C'est parce que vous ressemblez à ma maman. Enfin, moi je l'ai pas connue, mais vous êtes belle, et elle devait être belle aussi. C'est pas de chance que je sois petite, parce que j'aurais voulu mettre ma tête sur votre épaule et vous dire que je suis pas heureux. C'est pas moi, vous savez, qui ai renversé l'amphore. Vous me croyez, hein? C'est vrai que ça cause pas une statue. À vous, je peux le dire, je reçois des taloches à la maison. Et puis en classe, ils me disent tous que je suis pas comme les autres. J'ai pas eu de maman, et puis mon père, il est mort.
Il entendit alors au loin les voix des gardiens qui faisaient leur ronde. Le premier disait « Les 7 heures, il n'y a qu'à boucler !» Le deuxième approuvait « Bien sûr, tu sors, je coupe le jus !» Les gardiens avaient éteint la lumière, la porte s'était refermée derrière eux. Cette fois, Albert était prisonnier. Il s'accroupit au pied de la statue de Diane et resta un long moment immobile, les paupières closes. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il aperçut un petit reflet. Il se leva, fit quelques pas, se retrouva au milieu de la salle et découvrit l'origine de cette source lumineuse. Elle provenait d'une petite vitrine placée sur une colonne tronquée. Une petite lampe que les gardiens avaient omis d'éteindre l'éclairait. Albert s'approcha. À l'intérieur, un objet brillait. Un objet d'une 20aine de centimètres de long, percé de petits trous. Une plaque à la base de la vitrine l'intrigua.
Fluide d'or offerte au fils du général Sirius.
Le petit Albert était fasciné. Un sentiment étrange s'empara de lui et, comme dans un état second, il donna un grand coup dans la vitrine. Le verre éclata et Albert plongea sa main à l'intérieur. Ses doigts touchaient l'or de la flûte. Il s'en saisit et l'enfouit prestement dans l'échancrure de sa chemise. Cet or, plaqué contre sa peau, lui irradia la poitrine. Il prit peur. Il avait commis un vol. Il se retourna et regarda dans la direction de la statue de Diane.
C'est qu'un emprunt, madame, je vous jure.
À 10 mètres, il y a une fenêtre. Il y court, l'ouvre. Elle est garnie de barreaux espacés de 30 centimètres.
C'est pas l'obur tout malin qu'il est qui pourrait passer entre ces barreaux.
Jamais Albert n'a eu l'impression d'être aussi petit. Il se sent minuscule, un peu ridicule aussi, seul au milieu des gradins du théâtre antique. La fenêtre par laquelle il est passé donnait sur les vestiges des thermes, et de là, après avoir couru à travers les ruines, il a fini par arriver au théâtre. Il regarde autour de lui, voit l'immense scène, les galeries, les colonnades, et décide de monter encore plus haut. De là, il dominera l'ensemble du théâtre antique. Sa montée l'a essoufflé. Parvenu au pied d'une statue représentant un guerrier casqué, il s'assied pour reprendre haleine. Soudain, il repense à la flûte. Il la sort, l'examine. Un reflet de lune fait briller son or.
Et si j'essayais?
Continue. Avec un peu de bonne volonté, tu finiras par trouver une ligne mélodique.
Mais je rêve. La statue bouge. C'est elle qui m'a...
Mais n'aie pas peur, petit garçon. Comment t'appelles-tu?
Albert.
Quel âge as-tu? 11 ans, n'est-ce pas?
Oui.
Mais cesse de trembler. À ton âge, on est déjà un homme. Pourquoi as-tu volé la flûte de mon fils?
Je l'ai pas volée, monsieur. Juste empruntée. Portez pas plainte, je vais la rendre.
Sais-tu que je suis le général Sirius?
Non. Mon papa, il était aussi militaire.
Oh, j'ai pas dû le connaître, petit Albert. il n'était pas de ma promotion. Garde cette flûte jouant. Faux ou juste, qu'importe. L'essentiel est que tu en joues. Allez, vas-y.
C'est pas beau, hein?
Continue, petit Albert.
Moi, je veux bien, mais piste, là, vous plaît pas. Alors pourquoi?
Il y a 2000 ans, mon fils jouait comme toi, aussi faux, avec la flûte que tu tiens à la main.
S'il a pas réussi à faire des progrès, c'est pas moi qui...
Il est mort, dit Albert, avant d'avoir eu le temps de se perfectionner dans cet art.
Pardonnez-moi, monsieur.
Dit mon général. C'est plus gentil quand tu t'adresses à un militaire.
Oui, monsieur. Je veux dire mon général.
Bellone, la déesse de la guerre, voyant ma douleur, m'a promis que dans la nuit des temps, le jour où un enfant qui aurait l'âge de mon fils tirerait des sons de cette flûte, moi, général Sirius, renaîtrai pour quelques heures à la vie. Chaque fois que tu joueras de la flûte, à 9 heures, je pourrai vivre jusqu'à minuit. Passé ce délai, je rentrerai dans l'ombre et me figerai de nouveau dans l'éternité. Tu veux bien, petit Albert, revenir souvent? Tu vois ce socle vide. C'est là que devait se dresser la statue de mon fils. Mais on ne l'a jamais retrouvée. Qu'as-tu? Tu ne me crois pas?
Une statue, ça parle pas. Même quand c'est celle d'un général.
Le petit Albert était sceptique. Il ne croyait pas à cette statue qui s'était mise à lui parler. Et pourtant, dès le moment où il avait essayé de tirer des sons de cette flûte d'or, le général s'était animé, s'était adressé à lui. Est-ce qu'il était en train de rêver?
Mon général?
Oui, petit Albert?
Est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes bien vivant?
Tu veux une preuve? Tiens, regarde. Tu vois? C'est une centurie complète. Tu veux les voir défiler devant toi?
Oh oui!
Tu es convaincu?
Oui.
Tu devrais applaudir nos soldats.
Il n'y en a pas beaucoup. Mon père, lui, défilait en tête de toute l'armée. C'était un plus grand général que vous. Même que je l'ai vu un 14 juillet. Fallait voir comme il y avait du monde pour l'acclamer.
Écoute, Albert. Bellone, en m'autorisant à reparaître sur Terre, m'a donné la faculté de réaliser 3 vœux que pourrait formuler l'enfant par la grâce duquel je serais revenu d'outre-tombe. Souhaite à l'instant de voir réapparaître ton père. Nous verrons bien alors qui de lui ou de moi est véritablement un grand chef. D'accord?
D'accord. C'est papa qui lance sa canne en l'air. Et ce qui suit, c'est son armée. Papa! Papa!
Il t'a entendu, petit Albert. Mais le règlement militaire interdit de se retourner lorsqu'on défile. C'est vrai qu'il marche en tête d'une armée nombreuse, et si ça peut te faire plaisir et t'empêcher de pleurer, je t'accorde que de nous deux, c'est lui le plus grand chef. Tu es content?
Oh, oui, monsieur. Enfin, je veux dire, oui, mon général. Je peux faire encore 2 vœux, hein?
Bien sûr.
Je voudrais voir ma maman.
Alors, une sorte de tourbillon jaillit à quelques mètres du petit Albert. L'enfant écarquille les yeux. Peu à peu, le tourbillon s'amincit. Une forme élancée prend naissance. La forme a maintenant une taille, des jambes, un buste. Elle semble glisser, aérienne, à quelques centimètres du sol, dans un déploiement de voile arachnéen. Un visage surgit d'un amas de mousseline. Le petit Albert le trouve très beau, fin, doux. La dame qui s'avance vers lui a de longs cheveux blonds croulant sur les épaules et lui sourit. Albert esquisse un mouvement pour aller se jeter dans ses bras, mais une force implacable cloue au sol. Il est figé, incapable de faire le moindre geste. La dame blanche lui adresse un baiser du bout des doigts et disparaît. Des larmes jaillissent des yeux du petit Albert, roulent sur ses joues.
Il te reste un dernier vœu. Qu'est-ce qui te fera plaisir? C'est tellement difficile à dire.
Non. Oui. Dans ma classe, je suis le seul à pas voir de maman. Les autres, ils se moquent de moi. À Noël, j'ai pas été très électrique, ni de jouets. Alors j'ai envie de tellement de choses, vous comprenez?
Oui, je comprends. Alors, tu veux un jouet?
Un vélo, mon général. Oui, un vrai. Avec un guidon de course, et puis un dérailleur, un phare et des garde-boue chromés. Alors, je leur ai mon vélo?
Écoute, Albert, il est trop tard. Minuit est en train de sonner.
Et mon vélo?
Reviens demain à 9h, ici même, et joue. Joue faux ou juste, petit Albert, mais joue avec ton cœur.
Dites, mon général.
Dépêche-toi, petit, je n'ai plus le temps.
Pour le vélo, donnez-moi aussi la plaque. Parce que jamais je trouverai l'argent pour l'acheter.
Le froid du petit matin réveilla brusquement Albert. Il ouvrit un œil, s'étonna. Pourquoi n'était-il pas à l'école? Pourquoi avait-il couché dans cette galerie? Et il retrouva la flûte sous ses doigts et la mémoire lui revint.
Il aurait pu me donner rendez-vous ce matin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire jusqu'à ce soir?
Des chocs sourds provenaient des gradins. Il se leva et aperçut un homme à 20 mètres de lui qui taillait un bloc de pierre au burin. Il pensait que l'homme était en train de tailler dans la statue de Sirius. Remettant sa flûte d'or dans sa chemise, il entreprit d'aller voir l'homme au travail. L'ouvrier ne l'avait pas entendu arriver. C'était un homme du 60aine d'années, au visage ridé, à la bouche large. Il avait le teint naturellement hâlé de ceux qui travaillent au soleil. Une épaisse moustache blanche recouvrait entièrement sa lèvre supérieure et ses yeux avait la couleur du ciel.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que tu fais là, gamin?
J'attends le général.
Général?
Bah oui, Sirius, quoi.
Ah.
C'est lui, là-bas.
Oui, il est beau.
Et puis, il est tout puissant, vous savez.
Pourquoi tu n'y vas pas?
Parce qu'il ne sera là que ce soir, à 9h. Enfin, il reviendra vivant, vous comprenez?
Pas très bien, mais tu vas m'expliquer, tu veux bien? Depuis quand es-tu ici?
Depuis hier soir. J'ai vu le général à 9h et...
Dis, tu n'aurais pas un peu faim, bonhomme?
Si, monsieur.
Ah, tiens, j'ai du pain et des rillettes. Je vais te faire une tartine.
Oh, merci, monsieur.
C'est bon?
Oui, monsieur.
Alors, que t'a dit le général Sirius? Raconte-moi un peu.
Eh bien, j'ai joué de la flûte et puis tout à coup...
Sais-tu que la police et les gendarmes te recherchent? Tu t'en doutes bien un peu?
Oui, monsieur.
Je devrais te conduire au commissariat.
Oh non, monsieur, je vous en supplie. Pensez donc, c'est ce soir que je leur ai mon vélo. Il me l'a promis. Un vélo avec un guidon de course et puis un dérailleur.
Bon, et quand tu l'auras ce vélo, qu'est-ce que tu feras?
Je file avec tout de suite jusqu'à chez Lobure et j'y montre. Il en crèvera de jalousie.
Et si le général ne te parle pas ce soir?
Je rentrerai chez mon oncle.
Bon, Promets-moi de rentrer chez toi et je te conduis par la police.
Merci, monsieur.
C'est ta parole ?
Je vous le jure. Je vous le jure sur la tête de ma maman.
Le tailleur de pierre l'a quitté vers 20h en lui rappelant son serment. Maintenant, Albert attend. Il est retourné au pied de la statue avec 30 minutes d'avance et scrute le visage du général en avoir mal aux yeux.
Mais il ne bouge pas. Et alors, mon général ? Je suis là. C'est moi, Albert. J'ai la flûte. C'est pas vrai, mon général. Vous êtes bien là. Vous me faites marcher. Je veux la voir, mon vélo, hein ? Pour un militaire, vous n'êtes pas à l'heure.
Erreur, petit Albert. C'est cette horloge qui avance. Moi, je me bats sur celle de l'éternité.
Bah, mais... Et alors ?
Qu'y a-t-il ?
Et mon vélo ?
J'ai eu beau le chercher toute la journée, je n'ai rien trouvé. De mon temps, les vélos n'existent pas, tu comprends ?
Alors, il n'y a rien ?
Si, regarde. Il est beau, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que c'est ?
Un char romain. Un char de triomphe blanc et or. Il est beau, n'est-ce pas ?
Oui, je dis pas. Seulement, moi, je voulais un vélo pour aller en classe. Ça, c'est bien, mais comment ça marche ?
Il ne te plaît pas ?
Si.
Alors, accepte ce char en souvenir de moi. Qu'est-ce qui ne va pas ?
J'ose pas vous le dire. Je voudrais changer de vœu. Seulement, c'est sans doute pas possible.
Rien n'est impossible aux yeux d'un enfant. Je t'écoute.
Si j'étais votre fils, c'est pas un vélo que je vous aurais demandé. Je vous aurais dit, papa, laisse-moi vivre près de toi maintenant qu'on s'est retrouvés. Les autres, l'aubure, je m'en moque. Seulement, je suis pas votre fils. Mais comme vous connaissez maman, laissez-moi vivre près d'elle. Je vous jure d'être sage, de pas lui faire de peine, de me laver les dents 2 fois par jour et de bien faire mes devoirs. Dites, vous voulez bien ? Vous voulez bien ? Vous me l'avez montré. Ce serait pas juste de me l'enlever. Il y a si longtemps que je l'attendais.
Tu sais, si j'exauce ton vœu, tu devras renoncer à ton existence actuelle. Tu seras seul, Albert, sans tes amis. Réfléchis.
Je vous jure, mon général, que c'est ça mon dernier vœu.
Soit. Viens, approche. Monte sur ce socle. Tu hésites ? Attention, petit Albert, je n'ai pouvoir d'accomplir qu'un ultime vœu.
Donnez-moi 1 heure avant, rien qu'une heure.
Que veux-tu en faire ?
Je peux pas partir pour toujours sans revoir Frédéric. C'est le seul de toute la classe qui m'a toujours défendu.
Où habite-t-il ?
À Saint-Chef. Je vous en supplie, mon général, accordez-moi 1 heure, rien qu'une heure. Arrêtez toutes les horloges jusqu'à mon retour.
C'est bien ton dernier vœu ? Alors je fais disparaître le char et le cheval. Voilà. Pars et reviens vite. Ta maman t'attend.
Un soir, alors que je dormais dans ma chambre, ma sœur Jeannine est venue me réveiller. Albert sifflait sous ma fenêtre et jetait des petits cailloux dans les volets. Je vins aussitôt le rejoindre, me laissant glisser le long de la gouttière. Il me raconta cette histoire en détail et avec le plus grand sérieux, et me fit ses adieux avant, disait-il, d'aller vivre toujours auprès de sa mère. puis il partit dans la nuit. Le lendemain, il ne vint pas en classe. Dès la sortie de l'école, je pris le car pour Vienne. J'errais comme un fou au milieu du théâtre et là, sur ce socle que j'avais vu vide l'avant-veille avec mes camarades, entre la statue du général et celle de Bellone, je vis avec stupéfaction une troisième statue. Elle représentait Albert tenant dans sa main une flûte. Un homme que je n'avais pas vu arriver, tant j'étais bouleversé, s'est approché. Il m'a souri, a regardé la statue en hochant la tête, puis s'est tourné vers moi. Il avait le visage ridé et une épaisse moustache blanche.
Il est beau, n'est-ce pas? Je l'ai connu. C'est l'enfant à la flûte d'or. Il avait dormi ici dans le théâtre. Il avait faim et je lui ai donné à manger. Un très gentil garçon. Très intelligent.
Puis l'homme s'est retourné sans un mot de plus et il est reparti. Je revins à la maison conter à mes parents ce que j'avais vu. Mon père était un homme très sensible. Il avait un sens artistique très développé qui m'a profondément marqué. Il m'a écouté et a accepté de m'accompagner à Vienne. La statue d'Albert avait disparu. L'homme ridé à la moustache blanche était introuvable, inconnu. Mon père me passa la main dans les cheveux et me dit « Fils, il peut arriver à chacun de confondre le rêve et la réalité. » Il n'en reste pas moins que mon ami Albert n'a jamais reparu. Les recherches entreprises n'aboutirent à rien. Et ce n'est qu'aujourd'hui, 35 ans plus tard, dans ce manoir, que j'ai retrouvé le petit Albert à la flûte d'or.
Belle histoire en vérité, monsieur. Il y a de ces choses étranges que seuls les initiés, les élus, peuvent percevoir. Croyez-vous à la métempsychose? Moi, oui. Il en est des êtres comme des cordes d'un violon. Certains ont reçu le don de les faire vibrer. Qu'en pensez-vous, messieurs?
Au fond, il nous est à tous arrivé un jour ou l'autre une histoire extraordinaire.
C'est exact. Seulement une sorte de pudeur nous a retenus d'en parler. Faute sans doute de ne pas avoir réussi à créer l'ambiance propice à ce genre de confidence.
Tout à fait vrai. Et je trouve que ce soir, l'ambiance est justement tout ce qu'il y a de propice à entendre un récit comme celui que vous venez de nous conter, mon cher Frédéric.
C'était La cinquième dimension, présentée par le Théâtre de l'Oreille, d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté pour la radio par Pierre Bassoli. Aujourd'hui, première partie, Le garçon à la flûte d'or, avec par ordre d'apparition Sven Jensen, Gilbert Rigotti, Pierre le garde-chasse, Raoul Hiersin, Frédéric Barre, Marco Pelli, Armand de Camard, Philippe Lecher, le châtelain, Eric Ashton Lomax, la maîtresse Simone Emery, Albert Cédric Schneeberger, Sirius Vivian Augsburger, l'ouvrier Pierre Bassoli. Mise en onde de Marco Pelli et Pierre Bassoli. Effets spéciaux, prise de son et montage Pierre Bassoli.